de société, une émission de La Frappe, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
Radio G en RNT à Angers.
Radio G, un point, c'est tout.
Creature Shock Radio FM.
The day I follow Aubrey Hill Clayton on a wet deck, that day I cut my throat.
Mafia, votre émission Love.
Oh
salut,
yeah.
Pablo.
Hey, salut Seb, salut tout le monde, salut les auditeurs.
Alors pourquoi? Parce qu'on a Barry White dans le studio. Salut Seb.
Salut les gars, ça va?
C'est l'effet Covid. Ah non.
Non, pas c'est encore. L'effet laryngite.
Salut Romain.
Salut.
Alors comme tous les mercredis, tous les 15 jours.
tous les 15 jours.
Tous les mercredis, une fois sur deux, les semaines paires. Tous les mercredis, les semaines paires. Bande Geek Mafia, votre émission Info Culture. On va parler de cinéma, de séries télé, de bande dessinée, pas de musique.
C'est vrai. Mais on va en passer.
Ouais, c'est vrai.
On va en passer.
Et moi, je commence aussi par un petit coucou parce que je sais qu'il y a des petites oreilles qui nous écoutent un petit peu. Donc voilà, coucou à tout le monde.
Salut
je
les petites oreilles.
Salut les petites oreilles. Les petites oreilles, on les adore.
Les petits et les grands.
Les petits et les grands.
On salue les auditeurs, grandes. Les auditrices.
Le
les
France et de Navarre.
Même des Vosges.
Oh, ouais, même
au-delà,
même et au-delà, au-delà des Pyrénées.
Et au-delà des Pyrénées.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai.
On est bien sur Radio G.
Ouais.
101.5.
La radio qui fait le point.
Barry White dans Bande Geek Mafia.
Ah, sympa, quelle nostalgie.
Yeah. Merci,
yeah,
Seb.
De rien, les
Merci
gars.
Merci, Seb, pour cette suggestion.
Parler de cinéma.
Allez. Eh ben c'est parti, alors c'est moi qui commence par une petite chronique alors sur Mystère à Venise de Kenneth Branagh. Alors, quoi dire ? Une intrigue sombre, à souhait, et une mise en scène élégante, mais sans rien de marquant ou d'exceptionnel.
Oh.
Bon, non, franchement, bon, au final, un bon divertissement, mais bon, un opus un peu meilleur que les deux précédents. Je vous parle du synopsis. Alors que le monde se remet lentement de la Seconde Guerre mondiale, le maître détective belge Hercule Poirot prend sa retraite dans la ville lagunaire de Venise. Résigné et refusant de se pencher sur de nouvelles affaires, le détective belge se retrouve ici embarqué par son amie romancière Anna Dean Oliver, Tina Fey pour le casting. Dans une étrange soirée, une séance de spiritisme, dans un palais vénitien somptueux mais vieillissant, la cantatrice Rowena Drake, Kelly Reilly, cherche à prendre contact avec sa fille décédée grâce à l'aide de la médium Mrs. Reynolds, qui est interprétée par Michelle Yeoh, magnifique, qui prétend pouvoir communiquer avec les défunts. Bien entendu, le détective ne croit pas une seule seconde que le bâtiment soit hanté. Mais lorsqu'un des invités est assassiné, il se retrouve entraîné dans un monde étrange, plein d'ombres et de secrets. Une troisième adaptation du roman Le Crime. Alors ce roman, en fait, c'est une nouvelle qui s'appelle Le Crime d'Halloween d'Agatha Christie, par l'acteur et réalisateur britannique. Il y avait eu d'abord Le Crime de l'Orient Express, qui était pas mal. Mort sur le Nil, moins bon, il me semble. Et Mystère à Venise, bon, est bien meilleur, il me semble, mais bon.
Il a du mal à se renouveler, peut-être. Il fait trop de films tirés de romans d'Agatha Christie.
Oui, voilà. Moi, je trouve qu'il y a une espèce de... Comment dire de il y a quelque chose... Il colle trop dans le cadre. Je trouve qu'il n'essaye pas...
C'est classique, quoi.
Il reste très classique dans son adaptation.
D'accord.
Vraiment. Alors, on va quand même saluer le jeu de l'acteur. Malgré tout, Kenneth Branagh dans cet Hercule Poirot là, il incarne un Hercule Poirot sombre, tourmenté et misanthrope, un retraité amer et déçu par la nature humaine, plus qu'en retrait, qui s'est mis en pause de toute investigation, qui semble couler une lente dépression à Venise. Pour la première fois, l'acteur malmène quelque peu son personnage, dévoile ses failles et le met en danger. Le jeu est plus audacieux et enlevé que dans les films précédents. Le personnage d'Hercule Poirot est plus ambigu, son côté sombre est plus visible. Évidemment, son sens de l'observation incroyable et son intelligence restent de mise. Enfin, je cite le journal du Geek, Kenneth Branagh est un formaliste jusqu'au bout des ongles qui ne change les écrits de Christie que pour surprendre le connaisseur, sans modifier une ligne du texte. Comme dans ces deux films précédents, Mystère à Venise est balisé par le genre, sans forcément qu'on le comprenne dans le sens péjoratif du terme. C'est classique, c'est carré, à l'image de son époque, de l'époque de son personnage, à la plasticité faciale parfaite et lisse. Il y a un cadre, il ne faudra pas compter sur Branagh pour s'en écarter. Donc voilà. Donc au final, bon, écoutez, un bon divertissement, mais sans passion, ni rien d'étincelant.
On hésite à y aller.
Pour un petit divertissement en famille, ça passe très bien.
Ouais.
Après, pour de la cinéphilie, je trouve qu'on est un peu déçus.
Ok. Alors moi, je vais vous parler du Livre des Solutions, le dernier film de Michel Gondry. Alors Michel Gondry, vous le connaissez, il a fait L'Écume des Jours, Soyez Sympa, Rembobiné, et surtout
très, très bon.
Eternal Sunshine of the Spotless Mind.
Oh, magnifique.
Et bien d'autres films. Hein. Et puis des clips aussi, beaucoup
Tout
de clips pour plein de groupes, The White Stripes, Radiohead, Knives Out.
Knives Out, c'est lui qui l'a fait.
On est les fans de Radiohead.
Ouais, grave.
Et de Björk aussi.
Mais d'ailleurs, on va en passer.
Alors, C'est avec Pierre Niney. Et en fait, je crois que c'est la grande qualité de ce film. C'est Pierre Niney, en fait, clairement. Il y a aussi Blanche Gardin, qui est dans un rôle plutôt discret, enfin voilà, pas tonitruante ou extravagante comme dans ses spectacles, mais vraiment. C'est l'histoire de Marc. Marc, il s'enfuit avec toute son équipe dans un petit village des Cévennes pour finir son film. Il va chez sa tante Denise. Et alors sur place, sa créativité, en fait, elle se manifeste par 1 million d'idées, quoi. En fait, ça l'inspire. Il a 1 million d'idées par minute. Et alors, ça le plonge dans un espèce de chaos, en fait, dans un drôle de chaos. Et donc, il se lance dans l'écriture du livre des solutions. En parallèle de son film, il se lance dans l'écriture du livre des solutions. Ce serait comme un guide pour, un guide pratique avec des conseils qui pourraient être la solution à tous ses problèmes.
Okay.
Et donc,
ça va être marrant.
Ouais, alors c'est assez marrant. Par contre, autant les critiques dans la presse sont plutôt bonnes, je dirais, autant les critiques des spectateurs sont pas forcément toujours très positives. Alors pourquoi ? C'est pas à cause de Pierre Niney, je pense, ni à cause du manque d'humour et de fantaisie. Dans le film, il y a beaucoup de, comme dans tous les films de Gondry, hein, il y a de l'humour et de la fantaisie. Mmh. Mais je pense que c'est parce que c'est le portrait d'une personne en crise, en fait. Vraiment, le personnage joué par Pierre Niney, Marc, il est en crise. C'est une espèce de génie incompris, sauf qu'il est très prétentieux, par exemple. Voyez. Donc, il n'est pas forcément toujours très sympathique. C'est un peu un enfant gâté, capricieux, voyez. Mmh. Et donc, quelquefois, il est insupportable, quoi. Il tyrannise son entourage parce que il veut finir son film, il veut avancer, il a plein d'idées, enfin, vous voyez. Et donc, il est aussi exigeant avec les autres qu'avec lui-même, quoi. Mmh. Et donc, ça marche pas.
Il est pénible.
Alors, ce qui est intéressant, par contre, c'est clairement un autoportrait de Michel Gondry. C'est-à-dire que c'est Michel Gondry qui raconte sa crise, hein, ce qu'il a vécu lui-même. En fait, avec beaucoup d'autodérision, pour le coup, quand on sait ça, on sait que c'est, voilà, on sait ouais, qu'il se moque de lui-même, finalement. Et en même temps, ce qui est super, c'est qu'il y a plein de créativité. Parce que c'est un génie créatif, le personnage, et Michel Gondry aussi.
C'est ça, oui.
Ouais, tout à fait.
Et donc, on navigue dans une zone, voilà, entre le génie, la créativité, et puis, quelquefois, un personnage un peu insupportable. Donc, par contre, c'est génial parce que c'est une comédie, bah, comme tous les films de Gondry, c'est une comédie bricolée, quoi. C'est du bricolage avec plein d'effets spéciaux mais bricolés à la maison, quoi. C'est génial. C'est comme quand tu fais les génériques à la bouche, quoi.
Pareil.
On est sur le même niveau de talent.
Aussi,
éventuellement.
Et là, il y a quelques scènes cultes, vraiment. Il y a une scène en particulier où donc il faut enregistrer la musique du film. Donc il fait venir un orchestre et tout ça.
Ah oui,
sauf
non.
Que il vire le chef d'orchestre et il dit aux musiciens suivez mon corps, quoi. Quand je fais ça, c'est aigu. Quand je fais ça, c'est grave. Vous voyez ce que je veux dire ?
Ouais.
Et donc il se met à danser, quoi. Et les musiciens suivent les mouvements de Marc et il crée une musique comme ça grâce à ses gestes des bras et tout, c'est génial, quoi.
Et franchement, ça passe bien.
Mais c'est une super idée.
Ah oui, carrément.
Ah mais c'est excellent.
D'accord. Ça fait un peu musique contemporaine, les trucs.
Ouais, mais le film, c'est un ovni. Hein.
D'accord.
Ce film, c'est un ovni.
Super.
C'est inclassable, en fait. Je sais pas comment vous dire.
On rit bien.
Franchement.
Il y a aussi de la tendresse. Il y a un truc comme ça, comme dans Spotless Mind.
Ah non, alors c'est pas aussi, enfin, j'allais dire romantique, quoi.
Même si, oui, c'est intéressant, par exemple.
Non, c'est plutôt une comédie et c'est assez drôle. Et de temps en temps, effectivement, on se dit, mais c'est pas possible, quoi. Il est pénible, quoi.
Ouais, d'accord.
Bah, comme quelqu'un quand il est en crise, finalement.
Ouais, mais c'est ça. Alors,
c'est exactement ça.
Moi, je pense que ça parle de quelqu'un de maniaco-dépressif, en fait. Bipolaire, comme on disait avant. Mmh. Je pense que Michel Gondry doit être un peu comme ça. Et donc, il a voulu aussi. Alors, ça, c'est intéressant. Il a voulu montrer ce que c'est, en fait, que d'être comme ça. Et puis, surtout, des dégâts aussi que ça peut faire sur l'entourage, en fait.
Mmh. Et c'est peut-être pour ça aussi que c'est inclassable et qu'on a des avis apparemment aussi tranchés.
Oui.
Je pense que ça doit jouer là-dessus.
C'est ça, on aime ou on n'aime pas, en fait. On aime ou on déteste. Mais si vous aimez Michel Gondry, ça va vous plaire. Enfin, moi, c'était mon cas, en fait. C'est ça. On retrouve vraiment son style. Et puis, Pierre Niney, il est quand même extraordinaire, quoi. Il est excellent, vraiment.
D'accord.
Voilà. Donc, le livre des solutions, c'est toujours au cinéma, de Michel Gondry, avec Pierre Niney, Blanche Gardin, Françoise Lebrun aussi, qui est une actrice âgée, qui joue la tante Denise. Et elle est très intéressante aussi le personnage de la tante Denise est très intéressant parce que c'est la seule qui arrive à le comprendre et à le calmer, en gros, quoi.
D'accord. Blanche Gardin joue quoi là-dedans? Parce qu'elle tourne beaucoup.
Alors, Blanche Gardin, c'est celle qui, normalement, est censée faire le montage du film.
Okay.
Sauf que lui, il est incapable de finir son film. Parce qu'il a tout le temps, il veut rajouter des trucs, puis il veut pas voir les rushs.
C'est hyper compliqué.
Ça se prête bien à la créativité de Gondry, le côté un peu foutraque. Ouais. Toutes les autres. Ouais.
ça lui ouvre un spectre large sur toutes les fantaisies et ça doit être vraiment hyper agréable visuellement.
Ouais, c'est sympa.
Au-delà puis, même de l'histoire.
Il essaye d'écrire son livre des solutions parce que comme il a plein de problèmes, il essaye de trouver des solutions. Enfin bon,
c'est ça.
Ça doit être compliqué aussi pour la fin parce que finalement.
Je peux pas vous raconter.
Non, mais tu peux pas raconter. Mais ça va être compliqué à mon avis de faire une fin quoi qui satisfasse.
Ouais, mais ça va. La fin, elle est pas ridicule. La fin, elle est plutôt bien.
Elle est plutôt bien.
Ouais.
Ok.
Ouais. Ok. Je vous en dis pas plus.
Bah écoute, merci.
Mais donc voilà. Donc si vous aimez Gondry, soyez curieux.
Ouais.
Voilà. Soyez sympa, rembobinez.
Et voilà.
Osons. Alors j'ai découvert un petit groupe l'autre jour à la radio. Je sais pas, est-ce que vous avez envie de découvrir ça avec
bien
moi?
Bien sûr.
Vas-y. Alors, découvrir.
En plus, c'est un groupe de filles. Alors, Romain, je sais qu'il aime bien les groupes de rock avec des voix féminines.
Tout à fait.
C'est Otis Kerr.
Ah, je connais pas.
Avec Labrador dans Band Geek Mafia sur Radio G. Labrador dans Band Geek Mafia.
Wouf.
Et ça vous a plu?
C'était pas mal. Ça fait beaucoup penser à Wet Leg qu'on connaît, qu'on a déjà passé.
Ouais, en version française. Moi, j'ai trouvé très sympa. Ouais.
Ouais.
Merci les gars. Creature Shock Radio FM. Tout de suite la BD. Salut Seb.
Salut
Barry.
Alors, vous voulez que je commence par quoi? Par de la BD de l'actualité ou de la BD un petit peu plus soft, hot?
Eh ben pourquoi pas l'actu, parce qu'après si moi je dois parler de la série ça fera une bonne transition.
Ok. Alors là on est dans l'actualité Coupe du Monde bien sûr.
Eh oui.
Hein, Coupe du Monde de rugby.
Rugby.
Et donc les éditions Petit à Petit a réalisé un docu BD par Monsieur Ruzisby et son équipe. Monsieur Ruzisby fait aussi une bande dessinée sur le rugby que je conseille, je pense que j'en parlerai la prochaine fois, puisque c'est assez marrant, c'est des étapes, des explications, et puis il y a une planche de dessin à côté, c'est assez sympa. Et donc là, c'est Histoire incroyable de la Coupe du Monde de rugby, donc aux éditions Petit à Petit. Lancée en 87, après bien des hésitations, la Coupe du Monde de rugby est aujourd'hui le troisième événement sportif planétaire. Revivez les grands moments de ces 9 éditions sous l'angle passionnant du docu-BD et à travers les souvenirs de Monsieur Ruzibi, figure incontournable du monde de l'Ovalie. Je suis désolé, je le prononce peut-être mal son nom, mais bon, enfin bref, voilà. Match mythique, victoire inoubliable, défaite tragique, tractation en coulisses, conférence de presse houleuse, secret de vestiaire et confidence des plus grands. Tout est là pour vous faire découvrir des histoires que vous étiez loin d'imaginer, avec un préface en plus de Pierre Berbizier.
Oh, l'ancien joueur.
Ancien joueur. Donc, non, mais franchement, là, c'est on apprend des choses.
C'est du bon, ça.
C'est du bon, c'est vraiment du bon. La structure, elle est assez intéressante. Donc, on reprend la structure de la série, donc, de l'auteur habituel. Donc, on a une page avec une explication. Et puis, il va faire un focus, finalement, sur un point d'une histoire. Et donc, là, on va la mettre sous forme de bande dessinée, donc c'est assez sympa. On apprend plein de petits détails, justement sur les hésitations du début de la création de la Coupe du Monde, les petits côtés sombres aussi en même temps, hein, les petits côtés sombres de la Coupe du Monde, et puis aussi en même temps de certaines équipes, donc c'est assez sympa. Et puis du coup on revoit aussi certaines personnes et certains athlètes qui nous ont fait du mal, hein, parce que quand on commence avec Wilkinson sur la couverture, ça fait un peu mal.
Il y a Lumu aussi,
en même temps, très bel hommage à Jomai Lumu. On a Blanco, quoi, enfin bref, franchement on les retrouve tous, et ouais, c'est vraiment
à lire pendant la Coupe du Monde.
Et puis il y a des petits morceaux de vrais articles,
ouais, ouais, j'ai cru qu'il y avait des morceaux de rugbyman.
Et puis surtout il y a on a les résultats des 9 compétitions. Donc en clair, on a les résultats, les vainqueurs, et puis ceux qui sont malheureusement qui n'ont pas gagné. Et on a aussi la composition des équipes de France depuis 87.
Ah, c'est sympa ça.
Ça c'est sympa, ça c'est vachement sympa avec les entraîneurs, donc assez sympa. Bon,
dans un autre genre,
et je pense que
tout
Romain,
à fait différent. J'ai prévu une petite musique.
Oh. C'est vrai, ça fait très musique
C'est ça. C'est exactement ça. D'accord. C'est la musique de Deep Throat.
D'accord. Donc je vais essayer de prendre une voix beaucoup plus chaude. Oh. Milo Manara et Umberto Eco se sont réunis pour nous proposer.
Mais il est mort, Umberto Eco.
Oui, mais ils ont quand même réussi à se réunir quand même par l'intermédiaire de son œuvre créatrice, Le nom de la rose en bande dessinée aux éditions Glénat. Donc c'est prévu en plusieurs tomes. Ici, le premier tome vient de sortir. Et alors là, franchement, le thriller médiéval, roman d'apprentissage, récit philosophique, miroir tendu aux dérives idéologiques du monde moderne, Le nom de la rose est aussi et surtout un livre sur les livres et le pouvoir des livres. Milo Manara s'empare du chef-d'œuvre d'Umberto Eco et multiplie les styles graphiques gigognes pour en délivrer une étourdissante relecture. Plus qu'une simple adaptation, une merveilleuse coda visuelle aux énigmes labyrinthiques du roman. 2 mètres au sommet de l'art. Et franchement,
c'est vrai que Manara, c'est sympa. Hein, en général.
Bah, c'est sympa. Ouais. Graphiquement, c'est voilà.
Et là, c'est pas comme d'habitude, rassure-moi.
Non, c'est non.
Enfin, un peu sur la fin, quand même.
Bah, oui. Sur la fin, bien sûr. Enfin, parce
on va pas raconter la fin, mais
au milieu. Je pense que l'histoire, tout le monde la connaît. Hein. Il y a un moment, oui, effectivement, on aura un petit peu de femmes dénudées, mais on est surtout
quand le moine se laisse tenter.
Mais monsieur, on est quand même chez les moines, dans un monastère.
Le moine se laisse tenter. Le moine,
la chair est faible.
La chair est faible.
Et surtout, moi, ce que j'ai adoré finalement, c'est que l'histoire commence justement avec Umberto Eco. Umberto qui sort de sa tombe et qui raconte comment finalement il est arrivé à écrire justement ce roman. Et ça, petit clin d'œil sympa, et c'est vraiment agréable, et j'attends avec impatience le deuxième tome, puisque là le premier tome vient juste de sortir.
Eh bien, sinon, ça a l'air super.
Ouais. Ouais, c'est super.
Vraiment. C'est beau.
C'est donc,
le nom de la rose
que j'ai vu.
Le nom de la rose, Milo Manara, Umberto Eco, aux éditions Glénat. Et puis aux éditions Petit à Petit, un docu BD par Monsieur Ruzibik et son équipe, Histoire incroyable de la Coupe du Monde de rugby.
Merci
Sam, c'était bon.
Je vous propose d'écouter un petit peu de musique. Pablo, tu as dans ta playlist un petit Moriarty.
Ah bien.
Ça, c'est
allez,
pas mal ça.
Ouais, une petite chanson folle qui s'appelle Jimmy.
C'est pour Florence, elle adore cette chanson.
Cool.
Dans votre vie, Mafia. Sur Radio J.
101.5.
La radio qui fait le point.
you please come home? The grass is green and the buffaloes roam. Come see Jimmy, your Uncle Jim, and your Auntie Jim, and your Cousin Jim. Come home, Jimmy, 'cause you need a bath, and your Grandpa Jimmy is still gonna die. There's Buffalo Jim, Buffalo Jim, there's Jim Buffalo, not a didn't you know. Jim, Jimmy, Jimmy, it's your last cigarette, and there's Buffalo Piss, and it's all kind of wet. Jumbo Jimmy, you'd better hold your nose, our roads lead to Rome with the Buffalo.
Avec Jimmy dans Von Geek Mafia.
C'était
on aime
sympa.
Ce titre.
Ouais.
C'est trop beau. C'est vrai que c'est sympa. Quelle voix.
Gling, gling. Alors, petite anecdote au passage, parce qu'on aime les anecdotes.
Ah. Allez, vas-y.
Vas-y, c'est pas dingue. Pierre Castor.
Elle est pas dingue du tout, mais c'est un peu trop vendu.
Alors, ah ben là, tu l'as vendu, là, maintenant, ouais. Tu l'assumes. Hein.
En fait, je suis allé voir un concert une fois, c'était un festival, je crois que c'était un festival à Strasbourg, le truc des vins, c'est quand même un truc où des fois, il y a de très bons groupes.
Ah, il y a Fort Rovin, à Colmar.
Oui. C'est ça, à Colmar, j'ai dit à Strasbourg, c'est à Colmar.
Il y a eu Motorhead à Colmar.
Et ben en fait, il y a une année, il y avait les Gossip et il y avait Moriarty. Et honnêtement, la plupart des gens y allaient pour les Gossip, moi aussi. Mmh. Et franchement, Moriarty a été super sur scène, ils ont vraiment été excellents. Ça a porter tout le monde et les gossips hyper décevants.
Ah ouais.
Donc des fois il faut
être curieux.
Exactement. Ouais. Be curious.
Et ouais. Romain va nous parler des Pretenders.
Ah non.
Si. Brass in Pocket qu'on écoute le tube des Pretenders.
C'est ça.
J'y vais.
Oui, vas-y. vas-y, parle-nous de leur dernier album.
Là, pour le coup, je suis un peu venu pour vous dire rien du tout. Mais en fait,
oui.
Alors, les Pretenders sortent un album, là, dernier album vraiment très récent, qui est sorti en octobre. Et je vous avoue, j'étais venu pour le chroniquer. Et comme l'a fait Pablo précédemment, bah, parfois, on vient un peu enthousiaste, avec, on regarde un film de manière enthousiaste, ou on écoute un album, ou en tout cas, on veut en parler. Et franchement, j'ai pas accroché. J'avoue que j'ai. Voilà. En même temps, je m'attendais pas à du rock de fou en écoutant les Pretenders, mais c'était chiant.
T'attendais un bon vieux son,
j'attendais,
un peu léché quand même et tout. Et
ils ont vieilli. Ils ont vieilli.
J'attendais un
trop
titre
attendu, c'est ça.
Ça s'appelle Relentless et j'ai écouté quand même tout l'album, enfin par morceau. Je vais pas vous mentir, je suis pas allé au bout de tous les titres parce que c'était éprouvant. Mais non, j'ai pas trouvé ça exceptionnel. Et même le seul titre de l'album que je pourrais vous donner d'ailleurs, parce que qui est un peu rock, qui s'appelle Vainglorious de ce nouvel album. Tu peux toujours, pourquoi pas, en passer un petit extrait si ça te dit ou pas. Non, je vois que t'as pas envie, t'as raison. Ça fait rock qui sonne un peu faux, quoi.
Ça sent la naphtaline, quoi, en clair.
Rappelle-moi le titre.
Ça s'appelle Vainglorious.
Vain.
V-A-I-N, et puis Glorious en un mot, attaché en fait.
Ouais. Oui, je l'ai.
Eh ben, je vous laisse vous faire un petit avis. Écoutez-moi ce chef-d'œuvre, cette pépite.
Est-ce que finalement ça porte bien son nom?
Vainglorious, ouais. Bah, tu vas me dire ce que t'en penses. Viens me dire si tu vibres là. Même ça, ça.
Et ça, c'est un tube, ça fait 2,48.
Voilà, c'est pour ça que je l'avais choisi en plus.
Moi, j'aime bien.
Ah ouais? Ça fait faux, quoi.
Non. Ça n'apporte rien au Schmilblick, mais c'est bien.
J'ai l'impression que c'est le style un peu calme et sympa des Pretenders, mais en mettant un peu des guitares et en disant waouh, yeah!
Ça me fait penser à un truc qu'on va écouter juste après.
Ah ouais?
Ouais, un morceau de Weezer.
Ah ouais, mais Weezer, c'est vachement sympa.
Oui, mais de temps en temps, ils essayent de faire du gros son et ça fait un peu ça.
Eh ben ouais, mais tu vois, je trouve pas que ça fait un peu fake, quoi. Ça fait,
non, mais là, ce qui va pas, c'est surtout c'est la voix en arrière-plan, quoi. C'est surtout ça.
Le mixage.
Je sais pas, ça marche pas.
En train de hurler, là, c'est naze.
Ouais.
Ça fait un peu comme Iggy Pop quand il fait du rock aujourd'hui.
Bah ouais, mais ça sonne faux.
Moi j'aime bien.
La guitare est pas dégueulasse.
Moi je suis comme Pablo, je suis bon public.
Ouais, non, mais c'est bien. La guitare est pas dégueulasse.
Hein? Ça passe?
Ouais.
Les gars, j'admire après, votre bienveillance.
Non, moi je suis d'accord avec toi. Là, franchement, là, faut retirer une partie du son.
C'est vrai que c'est pas du rock. J'allais dire qui sent le slip, quoi. Tu vois? C'est l'expression consacrée, les gars.
Sent le slip.
Mais oui, c'est-à-dire où tu sens que les.
Une autre fois, mais
non, mais c'est-à-dire
les quoi, en clair.
Du rock où les gens sortent un peu leur trip. Pour le dire autrement, ouais, j'ai fait un lapsus entre trip et slip. Non, mais c'est l'expression consacrée, les petits gars.
C'est la conscience.
C'est la conscience.
C'est la conscience qui parle.
J'ai l'impression que c'est en lien avec.
C'est un
Manara.
C'est peut-être Manara qui m'a inspiré ce lapsus. Ce slip. Mais,
voilà.
Mais non, tout ça pour dire que c'est vrai que ça manque un peu de rage.
Bah
c'est
oui, oui.
Ça,
en fait.
Bah, disons que le cri derrière là fait fou.
Ça
là,
fait
il sonne
faux.
Fou, il sonne faux là. C'est peut-être.
Okay. Bref, une catastrophe.
Je vous ai dit. Non. Amis auditrices. Alors, et auditeurs, vous avez voilà la chronique que vous auriez pu entendre si Romain avait aimé.
Ouais, mais on est loin. On est loin du compte. Je voulais savoir.
Est-ce que vous connaissez Weezer?
Bien sûr.
Moi, je connais pas.
Je suis content de j'adore
connaître.
Ce groupe. Alors, bah non, mais là, on va pas écouter un titre connu. Alors, Weezer, c'est Island in the Sun, le morceau le plus connu.
Ah oui.
Bon, bref.
Fait la bouche.
C'était un tube d'été, quoi.
Je le fais bien. Hein.
Ah oui, ouais.
Et donc, ils ont fait plein d'autres tubes dans ce genre pop rock. En fait, ils ont beaucoup de succès aux États-Unis, etc. Et de temps en temps, ils essayent de faire un truc un peu métal, un peu petit. Rock. Et en fait, ça sonne faux. Parce qu'en fait, ce qu'ils savent faire, c'est de la pop, en fait.
Ouais.
Est-ce que ça vous dit d'écouter ça?
Ah ouais, allons-y.
C'est vrai?
Ouais, bien sûr.
Écoutez ça, c'est Weezer avec Fall Together.
Dans Bandit Mafia sur Radio G, 101.5.
Ah ouais, voilà. Ça me fait penser à un mash-up de vraiment de Wish entre du mauvais AC/DC et une tonalité à la Arctic Monkeys sur la manière de chanter. En fait, ça fait pas eux, quoi, en fait. T'as raison. Moi je vois toujours le clip de ce que tu chantais tout à l'heure.
C'est dommage parce que le riff est vachement sympa là.
Ouais,
au départ.
Ouais, c'est vrai.
Le riff avec la basse derrière, c'est très métal et tout, ça envoie du lourd. Et après, ça retombe un peu.
Alors Weezer, ça a toujours été des fans de Nirvana. Hein. Mais oui. ils arrivent pas à faire de Nirvana quoi.
Non, c'est pas leur patte.
Par contre, je vous conseille, hein, moi j'adore ce groupe.
Ouais, c'est sympa.
On pourrait vous faire un top 10. Hein.
Trop bien.
Ah oui. Hey, je t'avais fait un top 10, Romain.
Ouais, je crois.
Toi, tu m'avais fait Hills et moi je t'avais fait Weezer.
Exact, exact. Et Weezer, c'est cool. Franchement. Mais dans leur style.
Ça sonne fou.
Alors, ça sonne peut-être fou, mais par rapport au morceau d'avant.
Ah, tu préfères Weezer. Ah,
je préfère Weezer parce qu'il n'y a pas cet arrière-son là, horrible là qui.
Écoute ce solo!
Ouais, mais la guitare elle tire aussi en même temps.
Les mecs ils ont tapé sur Google solo de guitare rock qui déchire avec leur voix de
oui,
les mecs
ça.
Qui font de la pop. C'est exactement ça.
C'est peut-être un morceau de ChatGPT.
Ah non, parce que ça date d'il y a très longtemps. Hein.
Ouais, d'accord.
Moi, j'ai commencé à trouver ChatGPT.
La question après ça, Pablo, est-ce que tu trouves que ça sent le slip
Pas trop, justement.
D'accord. Non, là, ça sent les tripes, non, peut-être.
Return pas. On n'est pas dans le zombie non plus.
D'accord. Bah, par contre, l'intérêt de Weezer, c'est que ça dure 2 minutes 04.
Ah, voilà, pratique.
Ça, c'est pratique.
Mais c'est vrai qu'avec les voix en arrière-fond, le groupe qui fait vraiment ça, c'est... Comment... Where is my mind? J'ai oublié le nom. Là.
Nirvana?
Non,
les Pixies.
Les Pixies. Ouais,
voilà, putain,
là, effectivement, t'as une voix dans le fond, oui, mais elle est magnifiquement placée. C'est...
Ah non, parce que là, ça fait psychédélique, ouais, années 70, complètement
HS. Vous voulez du rock, du vrai?
Ouais, ouais. Vas-y, fais-nous rêver.
Ah oui, d'accord.
Ah voilà.
Classique.
Là, ça met tout le monde d'accord.
C'est dans Geek Graph, voilà. Sur Radio G.
On en parlait.
C'est un point. C'est mieux. Radio qui fait le point.
AC/DC.
Bon, est-ce que vous voyez ce que je voulais dire tout à l'heure?
Ça, c'est du rock.
Voilà. Ça, c'est du rock.
Ce qui est pas mal aussi, c'est la version avec Steven Seagal.
Oui.
Ça, c'est... Oui, c'est une version plus calme.
En fait. Ouais, plus calme, mais ils sont tellement drôles dans leurs clips aussi.
Creature Shock Radio FM.
Alors Pablo, une petite série, ensuite Romain, et puis je terminerai avec ma proposition. Pablo, c'est parti.
Ah ok, alors moi je vous parle de la...
Attends, que les moins de 20
ans. De la... Oui, enfin, c'est la sixième saison.
Il a tous les talents.
Mais on l'arrête plus, on l'arrête plus.
Excusez-moi.
C'est la série Black Mirror de la saison 6. Ouais. La saison 6, donc, c'est la qui vient de sortir, qui est sortie cet été, hein, de la création de Charlie Brooker. Fameux générique. Un retour vers le futur passé. Alors, je vous parle du synopsis d'un des épisodes. Allez, et puis après, un petit pitch sur la série. Bon, le premier épisode s'appelle John is Awful. John Tate est une jeune femme travaillant comme chef d'une équipe d'une entreprise nommée Sonicals. Elle est fiancée à Krish. Elle l'aime, mais pas trop. Son amour est assez plat. Elle a gardé quand même un lien avec son ex-compagnon Mac. Voilà. Mais elle avait une relation explosive dans les bons sens et les mauvais sens. Alors qu'elle vit une journée de travail normale, John est forcé par la direction de renvoyer une employée. John va leur passer une journée mouvementée, pleine de doutes, mais finit par rentrer chez elle le soir, retrouver son gentil petit mari. Ils dînent ensemble devant la télévision, cherchent une série à regarder sur Streamberry, un service de streaming empruntant l'apparence de Netflix. Alors qu'ils cherchent un programme dans le catalogue, ils tombent sur John. John est horrible. John is awful. En VO. Intrigué par le nom de la série et l'apparence semblable à John de l'actrice Selma Hayek, qui joue le rôle principal de la série. Le couple se lance dans le visionnage. John est alors sous le choc. La série retrace le fil de sa journée avec une précision déconcertante. Voilà. Ce qui est intéressant dans cet épisode, c'est que les acteurs jouent leur propre rôle et que Netflix est parodié, voire gentiment taclé par Charlie Brooker au passage. Cet épisode fait l'hypothèse qu'en souscrivant un contrat avec une plateforme de streaming, votre image pourrait leur appartenir et devenir exploitable dans une série. Une sorte de télé-réalité d'un nouveau genre qui dévoile et grossit tout ce que vous faites. Est-ce si absurde quand on sait que nos données deviennent la propriété de groupes dont nous utilisons les logiciels et les réseaux sociaux? L'hyper-commercialisation de notre société, et notamment du monde numérique, semble permettre qu'une entreprise privée devienne propriétaire d'une part de notre vie, voire de notre vie entière. Bon, en outre, je cite alors un petit extrait du journal du Geek. On sent que l'esprit même de la série a tendance à changer. Car si on retrouve encore certaines satires virulentes contre l'industrie à l'image de la fin de Locke Henry ou sur Mazay Day, le show se recentre surtout sur l'âme humaine dans une approche plus intimiste, une croisée des chemins personnifiée dans le formidable Mon cœur pour la vie avec l'excellent Aaron Paul. Vous vous rappelez Aaron Paul?
Ah oui.
Jesse.
Ouais, dans Breaking Bad.
Breaking Bad, super. Dans lequel deux astronautes en mission spatiale parviennent à maintenir leur vie terrestre grâce à des copies robotisées dans lesquelles ils se transfèrent. Donc on a une tragédie poignante, bien que prévisible, qui réunit le Black Mirror ancien avec une version science-fiction et ce nouveau Black Mirror plus centré sur l'âme humaine. Un dernier aspect surtout que je souhaite souligner, c'est autour de la saison. Charlie Brooker, le créateur de la série, a révélé dans une interview avoir demandé au robot conversationnel ChatGPT, la version 4, de lui écrire un scénario pour un épisode de Black Mirror. Résultat correct, dans la lignée des épisodes classiques de la série, sur nos rapports ambigus aux technologies et blablabla, mais l'effet artistique et original est parfaitement nul. Il l'a jeté à la poubelle. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que de voir cette saison 6, vous n'y retrouverez pas du tout le style des séries précédentes, enfin des épisodes précédents, mais quelque chose qui est bien plus tourmenté, bien plus approfondi, voilà, avec certains épisodes un peu légers. Enfin, on peut dire que, en gros, vous avez deux épisodes extrêmement solides, Lock Henry et Mon cœur pour la vie, un épisode promotionnel, John est horrible, et deux épisodes un petit peu plus oubliables, Mazay Day et Demon 79. Voilà, les petits gars, bonne
bon, bah, on regardera merci ça. Merci.
Moi, j'ai vu le premier épisode, là, John est horrible, là.
Ouais.
Mais c'est vrai que c'était un peu déroutant. Il est bien fait, hein, l'épisode.
Il est bien fait.
Mais c'est pas comme d'habitude.
Non, c'est pas comme d'habitude. Et c'est
même en même temps, il évolue, c'est bien aussi.
Ouais, c'est vrai. Et
pourquoi
ouais,
vraiment, la mère de Charles Trenet?
Ah, parce que alors, c'est la musique qui est passée dans Mon cœur pour la vie.
Ah.
Et vraiment. Je peux pas dévoiler les choses, mais il y a vraiment cette musique qui est omniprésente. C'est un épisode qui est très nostalgique, qui est très doux. Et très inquiétant en même temps. Là, il arrive à mêler un truc.
Moi, mon épisode préféré de Black Mirror, c'est San Junipero.
Ah oui.
Il est magnifique.
C'est vrai, carrément.
Mais.
Pareil, il sort un peu du style.
Ouais, exactement. Ouais. Je pensais à ça, justement.
On est moins dans l'horrible, dans le sidérant.
Bah non, au contraire, il y a une histoire plutôt, qui est plutôt belle, en fait.
Une belle histoire, carrément.
Ah ben merci. On va regarder ça avec attention.
C'est vrai que dans Black Mirror, il y a toujours de très très bons épisodes dans chaque saison, puis des épisodes un peu décevants.
Ouais, un peu.
Toujours depuis le début.
Il y a un peu de déchets.
Ouais.
Romain, alors on va peut-être enlever Charles Trenet parce que.
Bon, pourquoi pas, moi ça.
Tu sais, mais je peux te proposer autre chose.
Alors
tu vas nous parler de quoi?
Eh ben, je vais vous laisser deviner de quoi parle la série que j'ai envie de j'ai envie de vous présenter.
C'est une surprise.
Ah, regardez, si vous voyez ça, les gars, alors c'est pas très radiophonique, mais
non,
vous allez
absolument
me dire ce que vous voyez.
Easy.
Ouais, qu'est-ce qu'on voit ça?
On voit la culotte de Pablo.
Voilà,
le slip.
C'est ça, on peut le dire. On voit donc une.
Les gars,
si je ne
dévoilez pas tout, s'il vous plaît.
Non, c'est ça. On voit la passion de Pablo. Non, on voit une demoiselle qui visiblement retire, l'un de ses sous-vêtements. Enfin, son sous-vêtement, on va dire.
Ouais, on va dire ça.
Évidemment, la série parle. Alors, ça laisse penser que la série va être très axée sexe. Mais au final, il y en a un peu, c'est plutôt sympa, et c'est ce que j'ai envie de vous dire, c'est une série que je vous recommande, parce que j'ai envie de l'appeler une petite série un peu apéro.
Ça s'appelle Easy.
Easy, et ouais, parce que comme son nom l'indique, c'est facile à regarder au final.
Ouais.
On va suivre à travers cette série, c'est des épisodes relativement courts, ça dure entre 25 et 30 minutes, déjà pour un petit peu le format. Ça se passe à Chicago, et en fait, il y a 3 saisons seulement, 8 épisodes par saison, et l'idée c'est que on va pas suivre, par exemple le même couple, la même histoire, tout au long de la série, mais par exemple dans l'épisode 1 vous allez voir une petite histoire, dans l'épisode 2 une autre, on va voir que parfois les histoires sont mêlées bien sûr.
D'accord.
Mais en fait tout ça s'entrecroise et en fait la saison complète est une sorte de porte, enfin de tableau comme ça de plein de petites histoires sentimentales, parfois familiales, ça soulève des questions existentielles parfois, il y a aussi comme l'affiche le vent, mais il n'y a pas que ça, du sexe, on va pas se mentir, d'ailleurs de très belles scènes, agréables, sans que ce soit vulgaire et ainsi de suite, c'est très bien filmé, c'est très esthétique et c'est une vraie constellation de guests. Il y a beaucoup d'acteurs finalement qu'on a vu ailleurs qui se retrouvent dans cette série. Il y a des guests très célèbres, il y a Orlando Bloom qui fait un épisode notamment, épisode très sympathique au demeurant, saison 1.
Oula.
Et d'ailleurs avec, je peux vous donner quelques noms comme ça, peut-être que ça va vous parler.
Ah ouais.
Elizabeth Reaser, c'est une actrice qui a fait notamment, je sais pas si vous voyez, une série un peu horrifique sur Netflix qui s'appelle Truc Hill ou je sais pas quoi, c'était une série d'horreur.
The Haunting.
Voilà, et elle était dedans.
Hill House.
Exactement.
Excellent. C'était vachement bien.
En guest, un peu comme Orlando Bloom, Emily Ratajkowski. Ouais, c'est ça. Après, on a d'autres acteurs un peu plus connus comme Dave Franco. On a Jane Addams. On a Kate Misucci, qui est, vous savez, cette actrice qu'on a vue dans Breaking Bad. Dans Breaking Bad, mais dans Big Bang Theory. Vous vous rappelez?
Ah oui, bien sûr.
La copine de Raj, qui elle aussi a du mal. Qui est très introverti et qui a fait aussi un épisode, vous savez, dans le quand il y avait Del Toro qui avait fait des petites séries d'horreur.
Elle fait un épisode
où elle se met de la crème.
Hyper bien, il est excellent cet épisode.
Vous voyez à quoi je fais allusion,
n'est-ce pas? Il met vraiment mal à l'aise.
Exactement. Et il y a d'autres acteurs comme Marc Maron. Alors je ne sais pas où est-ce, mais par contre c'est
du name dropping ce soir dans Bandit.
C'est ça. Mais il est très très bon. Et il y a la sublimissime Zazie Beetz que vous connaissez peut-être.
Pas du tout.
Ouais, qui est une actrice qui a joué dans dans des films. Ça me revient pas, okay. Mais elle est sublime. Enfin bref, il y a des visages qui, même parfois c'est des acteurs qui sont pas forcément extrêmement connus, mais leur visage, parce que dans certaines séries vous les avez vus, vont vous parler.
D'accord.
Et bref, en tout cas, hyper agréable à suivre, vraiment sympa, des histoires qui sont drôles, des histoires qui vous touchent, des histoires sexuelles sympathiques. À voir avec un bon verre de vin.
Ouais.
On écoute Easy de Face No More.
Bravo, quel talent.
Quel impro. Ouais. C'est Radio Chine. C'est une émission.
Non, moi je vais vous parler d'une série suédoise. Est-ce que ça vous tente?
Bien sûr. Alors, on continue dans la même série. Yes.
Alors dans la même série, pas tout à fait, parce que moi c'est plutôt l'histoire de Suédois déprimés. Alors ça s'appelle 30 degrés en février. Alors c'est disponible gratuitement sur Arte, arte.tv. Alors moi j'ai découvert plein de super séries sur Arte. C'est gratuit, c'est disponible en permanence, il y a des trucs super. Alors 30 degrés en février, c'est une série suédoise, deux saisons. C'est un drame, on va dire. Oui, c'est ça. La première saison date de 2012, hein, et la deuxième saison de 2016, mais ça n'a pas d'importance, en fait. Ça n'a aucune importance. De quoi ça parle? Eh bien, c'est l'histoire de plusieurs Suédois et Suédoises qui partent en Thaïlande. Voilà. Parce qu'ils en ont marre de la Suède, il fait froid, il fait gris, on s'ennuie. Voilà. Et donc, on part au soleil, en février. Il fait 30 degrés en Thaïlande. Donc, ils se retrouvent sur les plages paradisiaques de Phuket. Voilà. Et donc, on suit trois parcours. On suit une femme qui part avec ses deux filles pour monter, on va dire, un hôtel, enfin, en tout cas, des petites maisons d'hôtes, vous voyez, sur une île pour accueillir des touristes et vivre comme ça l'aventure sur une île, quoi, et en gagnant un peu d'argent. En accueillant... Donc là, sauf qu'elle s'engage dans des travaux, enfin, que c'est ingérable, elle devient folle, en plus elle fait un AVC, enfin rien ne va.
Oula. C'est vrai.
Et là deux filles. Ah non, c'est un drame. Et puis alors, les Suédois n'en sortent pas grandi, alors que c'est une série suédoise mais qui se moque des Suédois, hein, clairement.
Ah ouais.
Deuxième parcours, on suit une femme qui arrive en vacances avec son mari qui est en fauteuil roulant en fait, et son mari il est odieux avec elle en fait. Elle est toute gentille, elle fait tout ce qu'elle peut pour l'aider, et lui il arrête pas, il la rabaisse, il veut pas sortir de l'hôtel, il l'insulte, puis elle le tue.
Ah ouais,
ça c'est fait, merci.
Ouais, et en même temps,
il le mérite. Non, en fait, c'est un accident.
Ok.
Et donc après, donc c'est sa fuite
que t'as rien spoilé. Là.
Non, si, un peu.
Anatomie d'une chute.
Non, mais je sais que vous regarderez pas.
Mais non, mais il a glissé simplement. Il a glissé.
En fait, ce qui est intéressant avec ce personnage, c'est qu'elle fuit. En fait, elle est tout le temps en train de s'enfuir parce qu'elle veut pas rentrer en Suède. Mais si elle se fait choper par la police en Thaïlande, c'est 30 ans de prison.
C'est ça.
Donc, elle est en fuite. Elle est en fuite. Donc, voilà. Donc, c'est super intéressant parce que à chaque fois qu'on la voit, elle essaye de s'installer quelque part, mais elle peut jamais y rester en fait. Donc, et c'est une femme qui a 60 ans, quoi.
Ah oui, d'accord.
Ah oui, oui.
Ah oui, d'accord. Au départ, on part sur un vieux couple qui va prendre un peu le soleil.
Ouais. Ok. Exactement. Oui, je l'ai peut-être mal.
Non, on avait
une femme avec ses deux filles, ce couple-là, qui part chercher le soleil en Thaïlande, même si lui, il veut pas venir. Enfin, il est odieux.
Non, bah lui, il a trouvé autre chose.
Et l'histoire d'un célibataire suédois qui vient en Thaïlande pour retrouver une femme.
Ah.
Et lui, il lui arrive tout ce qui doit arriver à ce genre de type. En fait, c'est qu'il tombe sur des prostituées, il tombe sur des femmes qui lui font croire que pour lui prendre son argent. Enfin voilà. Et puis il va tomber amoureux. Mais il va tomber amoureux d'un ladyboy.
Ah. Donc, comme le film. Il y a eu un film il y a pas si longtemps que ça.
C'est super. Hein.
Pas mal.
Alors la série est vraiment bien. Ouais. Je vous la vends peut-être pas très bien, mais la série.
Non, mais carrément, parce que de toute façon, moi j'adore les séries Arte. Et d'ailleurs, je vous en parlerai là dans 15 jours. J'ai deux séries super bien aussi. Arte, trop bien. Raven, par exemple, je sais pas, mais ouais. Donc
trois histoires, en fait, peut-être quatre, en fait, parce que après les personnages se séparent aussi. Enfin, bon, je vous rentre pas dans les détails, puis je veux pas spoiler trop. Donc, c'est des histoires singulières de Suédois et de Suédoises qui veulent quitter la neige, le froid de la Scandinavie pour les plages paradisiaques, donc je vous disais, de Phuket en Thaïlande. Et je trouve que c'est une pépite quand même. Parce qu'il y a de l'humour, hein. Il y a quand même de l'humour. Il y a de la finesse. Et puis, Et puis ça évolue assez bien sur les deux saisons. Heureusement, il y a que deux saisons, donc en fait, vous voyez, c'est pas, ça dure pas non plus éternellement, quoi. Par contre, chaque épisode dure au moins 55 minutes, quoi, presque une heure à chaque fois.
Une petite question, il n'y a pas de crossover entre les trois?
Ah si, alors justement, oui, très très bonne question, ça. Oui. C'est que les personnages quelquefois se croisent, en fait, ils se connaissent pas. Mais ils vont se croiser plusieurs fois dans l'histoire et c'est très important. Oui. Bien vu.
Okay. Oui, oui, bah oui, parce que ça, autrement.
Et alors, moi, je suis surpris qu'il y ait autant de Suédois en Thaïlande. Je savais qu'il y avait des Allemands, pour d'autres raisons.
Bah oui.
Mais il y a énormément de Suédois.
C'est pour ça qu'on a eu un peu peur tout à l'heure quand tu disais il a trouvé ce qu'il devait trouver sur place.
Bah non, lui, il cherche une femme. En fait. Oui, oui. Ouais, non, il ne cherche pas du tout des enfants, il cherche une femme.
Hein. Tant mieux. C'est
ce sauf que, en fait, les femmes profitent de lui, de son argent, de sa naïveté.
Ouais. Voilà.
Et il a trouvé un homme.
Enfin, c'est une femme, mais.
Oui, c'est vrai.
Qui était un homme.
D'accord.
Pas mal. Et donc ça pose plein de questions. Ça lui pose des questions, ça pose plein de questions à sa famille, enfin tout le monde, quoi.
Tout à fait.
Donc c'est pas mal du tout. Ça s'appelle 30 degrés en février. Alors le titre est pas extraordinaire.
Il est pas super.
Mais c'est une très bonne série, voilà.
Eh ben merci beaucoup. Ça donne envie, ouais, c'est cool.
Un petit Rival Sons. Alors pourquoi Rival Sons? Parce que Seb, je sais que tu aimes, mais surtout parce qu'ils seront en concert au mois d'octobre, le 24 octobre, à Saint-Herblain, à la Carrière, à Nantes, quoi.
Bah, à Nantes, directement.
Allez-y, on adore ce groupe.
Très bien.
Dans Bande Geek Mafia.
Sur Radio G.
C'est Bande Geek Mafia, votre émission Info Culture, un mercredi sur deux sur Radio G, semaine paire. Salut les gars.
Et salut tout le monde.
Rapidement, là. Il est 59.
Eh bien, c'est le monde.
Ouais, merci beaucoup à tous.
Regardez les séries sur Arte, c'est gratuit. N'écoutez pas les Pretenders.
Et écoutez la radio aussi.
Écoutez les Pretenders.
Écoutez surtout la radio.
Et on se quitte avec Radiohead.
Ah ouais.
Sur Radio G.
Exit Music.
Ah ouais. La radio qui fait le point. Et je vais pas y arriver ce soir.
Merci Seb.
Je vais pas y arriver.
Salut.
Salut.
Salut, à la prochaine.